Bonjour et bienvenue à tous. Nous continuons notre série d'émissions sur les vertus et les vices, c'est-à-dire sur notre vie chrétienne ancrée dans le Christ à travers et grâce à l'œuvre de l'Esprit-Saint. Nous avons déjà vu les vertus cardinales et théologales, c'est-à-dire les vertus cardinales des vertus humaines que tout homme peut acquérir et autour desquelles gravite toute autre vertu, à savoir la prudence, la justice, la force et la tempérance. Ensuite, nous avons vu les vertus théologales, c'est-à-dire des vertus qui ont Dieu pour origine, c'est lui qui nous les donne, et Dieu pour objet, c'est-à-dire elles nous mènent vers Dieu. Et donc ces trois vertus sont la foi, l'espérance et la charité. Et depuis deux émissions, nous avons commencé à aborder les vices capitaux, les sept vices capitaux. Des vices parce qu'il s'agit des maladies spirituelles, des faux plis que nous avons dans l'âme, qui nous portent, à force de l'habitude par exemple, qui nous portent à accomplir toujours des actes de ce côté-là, de cette caractéristique-là. Et capitaux, ces vices sont appelés capitaux, tout simplement parce qu'ils sont à la tête, caput en latin. Donc un vice capital est à la tête d'autres vices, à l'origine de beaucoup d'autres vices. Donc après l'orgueil que nous avons vu comme étant le péché originel, le principe, la racine de tout péché, après l'avarice ensuite, que nous avons vu qui est la racine de tous les maux, selon saint Paul, voici que pour l'envie, le vice que nous allons aborder aujourd'hui, l'envie, l'Écriture est tout aussi claire. Il est dit dans le livre de la Sagesse, « C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. » Effectivement, le livre de la Sagesse va développer cette idée au début en disant que l'homme a été créé pour la vie, pour l'incorruptibilité, pour une vie éternelle, épanouie avec le Seigneur. Mais par l'envie du diable, on va y revenir, la mort est entrée dans le monde. Et si nous prenons parti pour lui, nous participons à cette mort. Donc, l'envie ou la jalousie, il est intéressant que dans le français courant aujourd'hui, ces deux mots se confondent. On peut utiliser soit l'un, soit l'autre. Au départ, il y avait une petite distinction. On était envieux vis-à-vis des choses des autres et on était jaloux vis-à-vis de ce qui nous appartient et que nous ne voulons pas perdre. Nous ne voulons pas que les autres nous convoitent, nous prennent ce qui nous appartient. Donc l'envie était par rapport, mon regard par rapport aux choses d'autrui que je convoite, et la jalousie c'était pour ne pas perdre ce que je possède déjà. Mais aujourd'hui, selon plusieurs dictionnaires, normalement la signification courante de l'envie et de la jalousie se confondent. Donc on peut utiliser l'un pour l'autre. C'est un vice très dangereux et très destructeur qui te ronge l'âme. On pourrait la définir ainsi, si on veut définir l'envie, voir de mauvais œil le bonheur d'autrui, et donc être triste de le voir réussir, et conséquemment, être joyeux de le voir échouer. Donc l'envie a ses deux bras, soit nous sommes tristes de voir l'autre qui réussit dans ses affaires, dans sa vie amoureuse, professionnelle, etc., soit nous sommes contents de voir que l'autre a échoué. Vous vous souvenez peut-être, dans la première émission sur les vices, nous avions dit que la tristesse, au départ, faisait partie des huit vices capitaux. On ne disait pas les sept vices capitaux, on disait le huit, et il y avait la tristesse. Et je vous ai dit, dans cette émission-là, que la tristesse était ensuite répartie en deux autres vices, la paresse, qu'on verra à la fin, la dernière émission, et dans l'envie. Donc la tristesse n'est plus dans la liste, tout simplement parce qu'on l'a divisée dans l'envie et dans la paresse. Parce qu'effectivement, l'envie, elle nous entraîne, elle peut être causée par une tristesse de voir le bien d'autrui que moi je ne possède pas, ou elle peut nous entraîner à une tristesse profonde. Comme pour le démon, qui d'abord a péché par orgueil en voulant se faire l'égal de Dieu, et ensuite a tenté Ève par envie. Le démon tente l'homme et la femme par envie pour qu'ils tombent dans le même piège dans lequel il est tombé. Pour l'homme aussi, pour l'homme et la femme, après l'orgueil de notre péché originel, dans la Bible, l'envie est le deuxième péché. Car Caïn a tué Abel par envie. D'où l'animal donc qui représente l'envie. Normalement, ce vice est représenté par un serpent. Le serpent qui est envieux, qui cherche toujours à semer, à mettre de la zizanie au milieu. Vous voyez ? Je voudrais insister sur ce personnage de Caïn, parce que le livre de la Genèse, en décrivant Caïn, sa réaction, son attitude, nous donne vraiment une analyse psychologique presque de l'âme de Caïn sur l'effet de l'envie en lui. Je vous le lis, c'est au chapitre 4 de la Genèse. Abel devint pasteur de petits bétail et Caïn cultivait le sol. Le temps passa, il advint que Caïn présenta des produits du sol en offrande au Seigneur et qu'Abel, de son côté, offrit des premiers-nés de son troupeau et même de leur graisse. Or, le Seigneur agréa Abel et son offrande, mais il n'agréa pas Caïn et son offrande. Et Caïn en fut très irrité et eut le visage abattu. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Si tu es bien disposé, ne relèveras-tu pas la tête ? Mais si tu n'es pas bien disposé, le péché n'est-il pas à la porte ? Une bête tapie qui te convoite, pourras-tu la dominer ?» Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dehors. » Et comme ils étaient en pleine campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Vous voyez comment l'envie qui naît petit à petit dans le cœur de Caïn, qui voit que l'offrande d'Abel est agréée, est agréable aux yeux de Dieu. Ensuite, Caïn qui a juste le visage abattu, ça commence par cette tristesse intérieure, il change son visage, il n'a pas bonne mine, disons, il fait la tête, comme on dit dans un français courant. Et ça nourrit en lui, ce qui va devenir la colère, le vice suivant, qu'on verra dans la prochaine émission, très lié à l'envie. Et donc, il rumine cette envie à l'intérieur de lui. Le Seigneur le met en garde en disant, mais pourquoi as-tu le visage abattu ? Est-ce que tu as raison d'être comme ça ? Pour nous dire, est-ce que tu as bien raison d'être comme ça ? Est-ce que tu n'exagères pas un peu trop ? Etc. Et Caïn, donc, il ne va pas changer. Dieu lui dit, mais si tu restes le visage abattu trop de temps comme ça, le péché est comme une bête qui est tapie à la porte. Tu ne pourras pas lui résister. Par contre, si tu t'en débarrasses, tu seras joyeux, tu changeras de direction. Et en fait, Caïn n'a pas abandonné son envie, n'a pas laissé tomber, comme on dit, et a appelé son frère Abel et l'a tué. Donc ça pour nous dire un peu les traits caractéristiques de l'envie. Mais dans les Écritures, nous avons beaucoup d'exemples d'envie. Joseph, dans le livre de la Genèse, aussi va être livré par l'envie de ses frères. Il avait à l'époque 10 frères, il était le 11e, et lui donc va être livré pour être vendu comme esclave par l'envie de ses frères qui ne supportaient pas l'attention privilégiée, particulière que leur père donnait à Joseph. Ensuite, dans la traversée du désert, vous voyez ça dans le livre de Nombres, Myriam et Aaron, les deux frères de Moïse, le frère et la sœur de Moïse, vont aussi murmurer par envie parce qu'ils sont jaloux du fait que Dieu parle à Moïse et que c'est Moïse qui prend les décisions. Et donc Myriam et Aaron feront une petite rébellion, le murmure qui vient du fait qu'ils sont envieux, qu'ils sont jaloux. Par exemple, Jésus lui-même, évidemment, a été livré par l'envie des autorités juives. Les autorités juives de l'époque, les grands prêtres, les pharisiens, ne supportaient pas le fait que Jésus avait plus de succès avec les foules et que Jésus représentait une menace au pouvoir religieux en place pour eux. Et c'est pour ça qu'ils l'ont livré à l'autorité romaine, seule capable de le tuer, de le mettre en croix, nous le savons. Voyez, mes frères, l'envie est une maladie spirituelle qui mène à des péchés parfois très graves. Elle est un vice capital, c'est-à-dire qu'elle est à la tête, elle est en tête de file de beaucoup d'autres péchés. Par exemple, le murmure. Donc le murmure est comparé à la lèpre. Vous savez, cette maladie, Myriam, je disais tout à l'heure, Myriam a été atteinte de la lèpre après son murmure, sa rébellion. C'est une maladie qui nous ronge le cœur. Le murmure, quand on commence à râler, à murmurer tout le temps, ce bruit intérieur, c'est insupportable, ça nous ronge le cœur. Et ensuite, c'est très contagieux comme une maladie, puisque dans un petit groupe de 10 personnes, j'en sais rien, il suffit qu'un seul commence à murmurer que quelques temps après, tous les 10 font pareil. Ensuite, la médisance. La médisance aussi, ça peut être le fruit de l'envie. Donc, dire du mal de quelqu'un, mais aussi les ragots, tout simplement. Vouloir répandre de connaissances que nous avons d'autrui par envie. Les calomnies, on peut inventer des histoires fausses, complètement inventées, pour nuire à l'autre, juste par envie, par jalousie. On peut aussi ne pas aider l'autre exprès pour le voir échouer. Ça, c'est très courant dans les écoles. Par exemple, il y en a qui ne partagent pas leurs notes par jalousie, tout simplement, par compétitivité. Voilà. Et il y en a pire. J'ai entendu, en parlant avec des jeunes, qu'à l'université, maintenant, il y en a qui, pendant la pause, vont dans la salle de cours et effacent les notes prises par certains étudiants juste pour leur faire du mal. Donc, ouvrent leur ordinateur et effacent ce qu'ils avaient écrit comme note du cours précédent, juste pour leur faire du mal. Ou par exemple, quand on détruit le bien de l'autre, on détruit le rapport d'autres personnes, on met de la zizanie dans une amitié, dans un mariage encore plus grave, évidemment, dans une relation, en nous disant « si je ne l'ai pas, alors personne ne l'aura ». C'est le sabotage aussi. Par exemple, il y en a qui crèvent le pneu d'une autre voiture, car il ne peut pas voir que l'autre a une si belle voiture que lui-même ne peut pas posséder. Vous voyez jusqu'où l'envie peut aller. Ou par exemple, ne pas transmettre un message important du professeur ou du travail. Disons que le chef au travail avait dit qu'il y avait une réunion très importante cet après-midi. Ton compagnon de travail, ton collègue n'était pas là parce qu'il faisait d'autres choses. Et par envie, puisque tu es jaloux de lui et tu ne lui transmets pas ce message, par exemple, en faisant en sorte qu'il ne soit pas à la réunion très importante qui avait été annoncée. D'autres exemples, vous voyez comme on peut trouver beaucoup d'exemples d'envie, d'autres exemples de péchés qui sont commis à cause de l'envie, c'est éprouver du plaisir à annoncer de mauvaises nouvelles. Il y a des personnes qui vraiment éprouvent du plaisir à annoncer toujours de mauvaises nouvelles, ou voler quelqu'un par envie, faire de la sorcellerie pour faire du mal à l'autre, utiliser la magie, les voodoos, etc., ou pour se protéger de l'envie de l'autre. Aussi, c'est un péché, faire de la magie en essayant de se protéger contre de l'envie de l'autre. Voilà, mes frères, l'envie engendre la rivalité, la compétition malsaine. Saint Paul, dans la lettre aux Galates, au chapitre 5, va utiliser une expression très parlante. « Si vous vous mordez les uns les autres, vous allez vous détruire. » Regardez comme Saint Paul est très concret dans cette image. Si vous vous mordez, donc c'est vraiment par envie, si vous vous mordez les uns les autres, vous allez vous entre-détruire. Alors que Saint Paul lui-même, par ailleurs, dans la lettre aux Romains, nous dit de rivaliser dans l'amour fraternel. Il nous dit, si vous voulez rivaliser en quelque chose, rivaliser dans l'amour mutuel. Qui aime plus? Dans l'amour fraternel. C'est de la bonne compétitivité, au fond. Qui fait plus de bien à l'autre? On pourrait faire des compétitions sur ça. Qui fait plus de bien à l'autre? Voilà, mes frères, essayons de voir un peu le lien avec les autres vices capitaux. Je vous ai dit qu'il y a toujours des liens entre les sept vices capitaux. Donc, entre l'envie et la superbe, c'est-à-dire l'orgueil, et le lien est clair. L'amour exagéré de soi-même, c'est-à-dire l'orgueil, la vaine gloire, sont souvent à l'origine de l'envie. L'avarice aussi peut produire l'envie vis-à-vis de ceux qui ont plus que toi. Puisque l'autre en a plus, moi qui suis avare, je peux être envieux, jaloux de l'autre. La colère dans toutes les disputes à cause de l'envie, il y a beaucoup de disputes qui viennent de l'envie. La paresse peut aussi être un déclencheur de l'envie, parce que moi, je n'ai pas la force de travailler, de bouger, etc. Je peux donc être envieux de celui qui travaille et qui possède plus que moi. La luxure, bien évidemment, car je peux vouloir détruire une relation par envie, par jalousie de l'autre. Je peux essayer de détruire la relation parce que je voudrais avoir cette femme ou cet homme-là. Voilà, mes frères, je voudrais donc lire maintenant une parole de Saint Jacques qui est très très forte, de l'épître de Saint Jacques, qui nous éclaire encore plus sur l'envie. De l'épître de Saint Jacques. Est-il quelqu'un de sage et d'expérimenté parmi vous, qu'il fasse voir par une bonne conduite des actes empreints de douceur et de sagesse? Si vous avez au cœur, au contraire, une amère jalousie et un esprit de chicane, ne vous vantez pas, ne mentez pas contre la vérité. Pareille sagesse ne descend pas d'en haut, elle est terrestre, animale, démoniaque. car où il y a jalousie et chicane, il y a désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Tandis que la sagesse d'en haut est tout d'abord pure, puis pacifique, indulgente, bienveillante, pleine de pitié et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. En fruit de justice, elle se met dans la paix pour ceux qui produisent la paix. D'où viennent les guerres? D'où viennent les batailles parmi vous? N'est-ce pas précisément de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et ne possédez pas, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et ne pouvez obtenir, alors vous bataillez et vous faites la guerre. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de dépenser pour vos passions. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Père, donc l'envie, elle est forcément négative, ou est-ce qu'il y a quand même dans ce sentiment des choses qui peuvent produire du bien ?
Oui, vous avez tout à fait raison de poser cette question, parce qu'il faut faire très attention. L'envie n'est pas, quand je parle du vice capital de l'envie, je ne parle pas d'une, l'Église d'ailleurs ne parle pas d'une comparaison bonne qu'on peut faire avec autrui et qui peut stimuler, donner l'envie, avec un autre sens, d'avancer, par exemple, dans les études. Je vois d'autres qui ont des meilleures notes que moi, pas besoin d'être envieux, jaloux, mais cette comparaison peut me stimuler à étudier un peu plus pour avoir aussi des bonnes notes, vous voyez, non pas pour être triste si l'autre réussit ou content s'il échoue, mais que ça me stimule à dire pourquoi pas moi, si lui il a des bonnes notes, pourquoi pas moi. Je ne pourrais pas les avoir. Et donc, pour cela, ça peut nous aider à avancer dans les études, dans la connaissance. Par exemple, je pense un instrument musical. Je vois quelqu'un qui joue très bien de la guitare. Je peux avoir envie, là, pour le coup, envie, c'est-à-dire du désir d'approfondir, d'avancer dans mes connaissances pour jouer mieux, vous voyez ? Ou cela est tout à fait normal. Les qualités de l'autre, en fait, peuvent me réveiller et me pousser à agir et à progresser. Donc ça, ce n'est pas l'envie. Mais l'envie n'est pas non plus l'indignation qui peut être justifiée face à la réussite malhonnête de quelqu'un. Par exemple, je vois quelqu'un qui réussit dans son travail, mais en trichant, en prenant de chemins qui ne sont pas corrects. Et donc, je peux être indigné. Ça, ce n'est pas de l'envie, évidemment. On n'est pas indigné parce que l'autre a réussi et moi non. On est indigné parce qu'il a réussi de façon malhonnête. Mais là aussi, le Seigneur nous dit de ne pas envier ceux qui réussissent en faisant le mal. Je vais vous lire un petit extrait d'un psaume qui est très long, le psaume 37-36, qui s'appelle ce petit extrait de ce psaume qui parle donc de l'envie. Il dit « Ne t'indigne pas à la vue des méchants, n'envie pas les artisans de mensonges. Comme l'herbe, ils seront fanés, ils flétriront comme le ver des prés. Ne t'indigne pas à la vue des méchants. Toi, fais confiance au Seigneur et agis bien. Habite la terre et sois fidèle. Que le Seigneur soit ton délice et il comblera les désirs de ton cœur. Remets ton chemin au Seigneur et espère en lui. Espère en lui, il agira. Il fera briller ta justice comme le soleil ta fidélité. Reste en silence et espère en lui. Ne t'indigne pas devant l'homme qui triomphe avec des intrigues. Toi, fais confiance et espère en Dieu. Laisse ta colère, calme ton courroux, ne t'exaspère pas, qu'il ne t'arrive que tu fasses le mal. Qui fait le mal sera exclu, mais qui espère en Dieu, dans la terre entrera. Attends un moment, le méchant a disparu. Regarde sa place, il n'y est plus. Mais les doux posséderont la terre, ils jouiront de paix, d'une grande paix. Vous voyez comment, même si l'indignation n'est pas un péché, encore moins un vice, le Seigneur nous dit, pas besoin de s'inquiéter si les méchants réussissent, puisque l'important, c'est de faire confiance au Seigneur, d'agir bien, il n'y a pas besoin de s'indigner, voilà. Mais ce n'est pas l'envie. Il ne faudrait pas non plus confondre l'envie avec le zèle des choses saintes, vous voyez. L'Écriture, en effet, dit que notre Dieu est un Dieu jaloux. On pourrait être étonné de voir cette expression dans le Deutéronome « Ton Dieu est un Dieu jaloux ». Jaloux, c'est-à-dire qui a du zèle, étymologiquement, qui ne veut pas nous partager avec les idoles. C'est pour ça que Dieu est jaloux. Il ne veut pas nous partager avec d'autres choses, des idoles qui ne sont pas Dieu, qui ne peuvent pas nous donner la vie. Ce zèle, par exemple, est présent dans les mariages chrétiens, la famille. Quand on dit que le mari est jaloux de sa femme, quelque part, il a raison. Il a le zèle pour son sacrement, pour le mariage. Donc, il ne veut pas que quelque chose vienne troubler cette relation, ce mariage. La même chose de la famille. La maman peut être un peu jalouse du fait que d'autres personnes adultes essayent de convaincre, de parler à ses enfants en essayant de les amener à d'autres chemins. Et elle a raison de le faire. C'est le zèle pour sa famille. C'est elle qui porte l'éducation de ses enfants. Donc tout ça, ce n'est pas de l'envie quand c'est bien sûr dans la mesure. Quand c'est démesuré, ça peut amener même à des troubles. Une jalousie exagérée, bien évidemment, nous connaissons tous des cas comme cela, n'amène qu'à la perte de la relation, finalement. Hein. Et il est très important, je conclue, il est vrai que l'envie des autres peut nous nuire, nous faire du mal, mais il ne faut pas aller jusqu'à la peur superstitieuse très répandue dans quelques régions du monde, du mauvais œil, par exemple, qui amène les gens à recourir à la magie, aux amulettes, aux cornes, vous savez tout ça, au corail, au talisman, pour se protéger de l'envie, du mauvais œil des autres. Non, nous les chrétiens, on n'a besoin de rien de ça. Comme disait le psaume tout à l'heure, nous, nous espérons dans le Seigneur, nous mettons notre vie, notre avenir, notre bonheur dans le Seigneur, et c'est lui qui regarde tout, qui sait tout, qui va nous donner toujours la vie et l'amour qui nous viennent de lui. Une bonne journée à tous.